Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Première, je voudrais dire pardon à les supporters.
Je demande pardon à nos supporters pour ces résultats.
Je dis pardon à tous les supporters.
Je dois juste dire à nos supporters excuse.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'after en direct sur RMC, 7 jours sur 7 jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. La compo ce soir, Florent Gautreau, salut Flo.
Salut, salut Thibaut, salut à tous.
Et Stéphane Guy nous rejoint dans un instant, le temps qui passe par la cagnotte, mettre ses 10 euros supplémentaires. Pour son retard. Au programme ce soir, l'équipe de France, dans un instant, on va refermer cette fenêtre internationale avec l'avis de Stéphane, justement, pas inquiet pour les Bleus, et l'avis de Flo, ton avis Flo concernant Randal Kolo Muani, peut-être le meilleur joueur français hier, qui n'est définitivement pas un numéro 9 pour toi. 32-16, si vous voulez venir en débattre avec Florent. 22h30, on se projette sur l'Euro avec les drôles de dames. Focus sur nos adversaires en phase de poule. Les Pays-Bas avec Johan Crochet, l'Autriche avec Paulo Breitner et la Pologne avec un invité ce soir, Mathieu Pekenard, spécialiste du foot polonais. Il tweet avec le compte @footpolak ou encore sur le site qu'on connaît bien, footballski.fr. En deuxième heure, Marseille-Paris-Saint-Germain, la Ligue 1 qui revient. On est à 4 jours du choc. Hécatombe de blessés chez les Marseillais. On débattra des choix possibles. Ils sont peu nombreux pour Jean-Louis Gasset. Venez nous dire, Marseillais, quel 11 vous pouvez voir aligné face au PSG dimanche. Et puis, Marseillais, Parisiens, et puis observateur neutre de notre football, simple spectateur, venez nous dire si un OM Paris Saint-Germain, si cet OM PSG vous excite toujours autant. On vous attend, n'hésitez pas. Avec Max qui est là ce soir au 32-16, vous nous appelez. Max est là au standard, il vous reçoit et vous êtes ensuite en direct à la radio sur RMC. Si vous préférez écrire, je vous lis sur le direct studio et bien évidemment sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Vous pouvez venir nous voir, vous pouvez venir commenter cette soirée foot, mettre l'After à la télé, vous savez, hein, les télés connectées, on télécharge l'appli YouTube, on s'abonne à la chaîne de l'After et vous pouvez mettre l'After à la télé. Et comme ça, vous pouvez à la fois commenter et venir jouer au jeu des sosies, bien évidemment, Flo, bien aimé par nos youtubeurs, ouais. Qui viennent commenter. Donc moi j'ai le droit à Lesmelou et Djokovic.
Lesmelou, ouais, ouais. Tu t'en sors bien, hein. C'est pas mal. Hein. Mais Lesmelou, presque en équipe de France, ouais. Djokovic, ouais, ou ouais. L'autre quand même.
C'est plutôt Djokovic en général qu'on me dit.
Ah Djokovic, c'est comme moi c'était.
James Bond, Daniel ouais, Craig.
Daniel Craig, bon.
Avant la muscu quoi.
Craig de Wish quoi.
Exactement. 22h02.
Alors, il y en avait
également.
Il y en avait un.
Ah.
Dans la tribune de presse, c'était Johnny Wilkinson.
On te disait Johnny Wilkinson?
Ouais, Johnny Wilkinson. Je pense qu'il y a un léger truc dans les yeux, le strabisme et tout, il y a un truc. Pas mal, je m'en sors bien, en fait.
Oui, oui, oui. Ah bah, entre
mais
James Bond et Johnny
muscu,
Wilkinson,
pareil,
oui,
il y a
oui,
du
oui.
Boulot.
Oui, c'est sûr. On joue également cette semaine, vous le savez, puisque le coffre RMC est de retour. On vous offre jusqu'à 50 000 euros dès que vous entendez ça. Vous aurez 5 minutes pour envoyer coffre par SMS au 732-16 et vendredi, après-demain, l'un ou l'une d'entre vous sera avec nous dans l'émission, dans l'after, pour ouvrir le coffre. Si vous êtes sélectionné, vous repartez avec la somme de 2500 euros. Mais si vous voulez jouer et que vous remettez cette somme en ouvrant le coffre RMC, vous gagnerez soit une semaine de vacances dans un des campings Tikayan en France pour 6 personnes, soit le gros lot, les 50 000 euros. Donc vous envoyez coffre par SMS au 732-16 et soyez vigilants, l'alerte peut tomber à n'importe quel moment, pendant l'émission, pendant un débat, pendant une pub. Restez là en tout cas en direct jusqu'à minuit, 22h04. Stéphane Guy est là. Salut Stéphane, sois le bienvenu.
Citoyen, bonsoir. Mes excuses.
T'es passé mettre la petite pièce dans la tirelire.
Oui, oui. Ouais. J'en mettrai même deux. Là,
ouais. On met un billet directement. l'équipe de France, on va refermer définitivement. Alléluia, cette page internationale, c'est match amicaux du mois de mars avec l'avis tranché de Stéphane, justement.
Il a tout tenté parce qu'il a tout raté. S'il n'avait pas tout raté, il n'aurait pas tout tenté.
Bon Stéphane, tu as suivi évidemment avec beaucoup d'attention ces deux matchs de l'équipe de France, la défaite contre l'Allemagne, la victoire hier contre le Chili. On en a beaucoup débattu et au final, t'es pas inquiet plus que ça?
Non, bon, on en a parlé hier avec Daniel en débriefant ce France-Chili. Évidemment qu'on n'est pas emballé, évidemment qu'il n'y a aucune raison de se réjouir de rien, qu'on avait l'impression que ça n'avance pas, que l'équipe de France a des soucis notamment sur le plan défensif. C'est peut-être finalement ce qui me rassure, c'est que je me dis que s'il y a un sujet sur lequel on peut pas être trop inquiet après 12 ans de Didier Deschamps, c'est la capacité qu'il a à mettre en place une équipe sur le plan défensif. Donc les problèmes qui se posent ne seront à mon sens que des problèmes conjoncturels, et je j'imagine pas une seule seconde l'équipe de France à l'Euro être défaillante de ce point de vue-là. J'imagine pas non plus évidemment voir un Kylian Mbappé en dessous de tout comme il l'a été sur ces deux matchs-là. Donc au final, moi je suis honnêtement, à l'heure où l'on se parle et après ce rassemblement de mars qui sert pas grand chose quand il n'y a pas de compétition, quand il n'y a pas de place à aller chercher pour une grande compétition, je suis plus inquiet pour l'équipe de France olympique que pour l'équipe de France A, je suis plus inquiet pour les JO que pour l'Euro.
Et d'ailleurs, on parlera dans l'actu du jour, là, en fin d'émission, on a des nouvelles à vous donner sur de futurs joueurs ou pas de cette équipe de France olympique. Flo, est-ce que tu partages l'avis de Stéphane? Et 32-16, hein, n'hésitez pas si vous voulez venir participer au débat.
C'est vrai que l'expérience avec Deschamps fait que on se dit un peu ça. On se dit, quoi qu'il arrive, il a tellement peu de certitudes. Parfois, il est tellement capable de changer les choses, finalement, parce qu'on a souvent dit qu'il était conservateur, mais il change quand même assez souvent. La preuve, c'est que notamment sur la défense, puisque t'en parlais, j'ai fait des avis dans le passé, sans doute en disant, par exemple, je suis inquiet, il n'y a pas d'équipe type, il a mis sa 10e charnière en 10 matchs, et puis en fait, à la Coupe du Monde qui suit, ou au Championnat d'Europe qui suit, bon, bah, il a une défense, et puis ça fonctionne. Donc,
avec Upamecano Konaté, 6 mois avant la dernière Coupe du Monde, c'était compliqué de l'imaginer.
Compliqué, et là, c'est compliqué. Enfin, d'ailleurs, c'est compliqué de savoir quelle sera la charnière, mais enfin bon, voilà. Donc, effectivement, c'est pas ce qui m'inquiète chez Deschamps. En fait, on a les mêmes inquiétudes et les mêmes certitudes qu'avant. Et effectivement, ça, c'est pas forcément inquiétant. Ce qui m'a le plus gêné, déjà un point sur la trêve internationale, c'est vrai que moi, elle me passionne pas énormément. Elle gêne beaucoup les clubs et les joueurs aussi. C'est dans l'attitude des joueurs. C'est-à-dire que les Allemands aussi, ils ont des échéances derrière. Et ils n'ont pas du tout, ils sont pas du tout rentrés dans le match comme les Français sont rentrés dans ce match amical. Donc, moi, ce qui m'a plus gêné.
Ils sont restés sur une telle série d'échecs. Ils avaient besoin.
Mais même les Chiliens,
eux, ils avaient besoin de se rassurer.
Je veux dire, j'ai vu ce qui me gêne plus, c'est l'attitude globale. Qui fait que oui, d'accord, on m'a dit, tu veux qu'ils se blessent? Je mettais des tweets ou des messages quand j'ai fait l'after lundi, on m'a dit, tu préfères qu'ils se blessent tous? Non, bien sûr, il y a des blessures de toute façon, et c'est ça qui est terrible. Donc cette trêve internationale, effectivement, elle est sans doute à repenser parce que c'est pas possible. Néanmoins, ce qui a été le plus gênant, et notamment contre l'Allemagne, parce que c'est l'Allemagne, parce que c'est pas un match comme les autres, parce que justement c'est un France-Allemagne, je pense que là, et j'espère, d'après ce qu'ont dit les joueurs, ils l'ont compris, on n'a pas le droit d'aborder un match international contre l'Allemagne, quel que soit le statut de ce match, comme ils l'ont abordé. J'imagine, ils sont pas fous, ils jouent tous dans des grands clubs, ils savent tout ça. Deschamps sait tout ça. Deschamps a dû détester ce qui s'est passé sur le premier match. Voilà. Donc c'est pour ça.
Ça peut même lui servir, parce que je pense que dans sa remobilisation qui va être nécessaire, il va forcément se servir de ces matchs-là. Ouais. Nous, on s'est ennuyés. On n'était pas content, on n'a pas passé du bon temps, clairement à regarder du foot ce week-end, enfin du coup en regardant l'équipe de France, mais en revanche lui, ça peut lui être utile pour la suite des opérations.
Ce qui est le point qui est mieux par rapport à des moments comme ça que j'ai connu avec les Bleus où ils arrivaient un peu favoris, on va dire. Par exemple 2002, c'est que l'accident par exemple en 2002 arrive au Stade de France juste avant de prendre l'avion pour aller en Corée du Sud, au Japon, enfin peu importe, et on se rend pas compte de l'accident.
On le vit pas comme un accident.
À l'époque, on se dit, c'est rien, c'est péripétie.
C'est
la Belgique. Alors que dans ce match, il y a déjà beaucoup de choses, mais bon. Et alors que là, on est loin de la compétition. Donc effectivement, il y a le temps, évidemment, de se remobiliser. Il y a déjà la liste. Et puis, il y a Deschamps qui, effectivement, n'ayant pas aimé ça, voilà. Après, j'y reviendrai. Néanmoins, et quelle que soit la capacité de Deschamps à mobiliser tout le monde, on a vu aussi que cette équipe de France-là, en termes de jeu et de créativité, elle est comme d'habitude sans doute nous frustrer, même si ça se passe bien. C'est-à-dire que même s'ils ont la bonne attitude et même si on retrouve une équipe combattante et investie, il en reste pas moins que ce qu'on a vécu, on risque de revivre certains matchs comme on les a vécus pendant la Coupe du Monde.
Êtes-vous inquiet ou pas 32-16 pour venir débattre dans l'after
on
avec Stéphane Guy.
Inquiet sur le résultat peut-être, mais inquiet quand même. Mais bon, ça quelque part sur finalement l'envie, le plaisir qu'on a parce qu'on dit tiens, on prend toujours du plaisir. Bah non, il y a beaucoup de gens avec qui on a échangé ces derniers jours qui disent bah c'est vrai que finalement il y a beaucoup de matchs où on prend pas de plaisir en regardant les Bleus. C'est vrai aussi.
On souligne beaucoup, on l'a fait contre l'Allemagne dans l'after, l'attitude. Vous le faites aussi ce soir. Il y a quelque chose qui m'inquiète un peu, je ne sais pas si vous partagez pas, on en a parlé également dans l'after, notamment lundi, Daniel en a parlé, j'ai l'impression aussi qu'on a pris une claque technique contre l'Allemagne, c'était clair, contre le Chili, on ne peut pas dire qu'on était nettement supérieur techniquement. Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude aussi sur le niveau de nos joueurs? C'est-à-dire qu'on a eu, par le passé, des mois de mars compliqués, mais techniquement, ouais, on avait des Pogba, on avait des Kanté, ouais. Et qu'on n'a plus aujourd'hui. Et on n'a pas risque de se retrouver dans 3 mois à l'Euro, mais peut-être avec un meilleur état d'esprit, avec une meilleure attitude, mais toujours autant limité techniquement.
Ouais, c'est sûr qu'on a au milieu de terrain, c'est pas aujourd'hui la qualité première des milieux de terrain français. Mais je pense que ça a été beaucoup accentué par quand même l'invisibilité de Kylian Mbappé, qui est celui qui doit quand même apporter aussi cette touche-là et donner ce tempo-là qu'il a pas du tout donné. Moi je pense quand même que quand tu as sur un côté gauche comme on avait à la Coupe du Monde Théo Hernandez, Rabiot et Kylian Mbappé, tu peux pas parler de déficit technique, quoi.
Ouais, mais, ouais, le problème, mais plutôt ceux qui sont autour de Rabiot notamment.
Ouais, moi après, c'est plus le milieu. Tu rajoutes Griezmann au milieu déjà. Tu bon, voilà. Après. Tout dépend de ce qu'on entend. Oui, on voudrait quoi qu'ils jouent comme l'Espagne. Moi, l'Espagne est une équipe qui m'ennuie profondément, hein, par exemple. Donc, il y a peut-être une qualité technique individuelle supérieure dans le choix des joueurs, mais il m'ennuie beaucoup plus que nos Français, par exemple.
Ah, d'accord.
Flo, ce qui est gênant, c'est qu'on en revienne toujours à se dire simplement. Ah ben il faut vraiment qu'Mbappé soit notre sauveur pour qu'on s'en sorte. C'est-à-dire qu'effectivement c'est ce que pense Deschamps. Donc à la limite la composition de son groupe, elle va dans ce sens-là aussi.
C'est ce que pense Deschamps. Puis c'est l'histoire de notre football.
Oui, mais
le football il est porté par des leaders techniques exceptionnels.
Oui, mais
j'ai pas d'exemple d'une équipe de France où il y avait pas un leader
endroit.
Technique exceptionnel.
Il est trop haut, Mbappé, par rapport aux autres qu'on a eu. Ce que je veux te dire, c'est que dans le cœur du jeu, la salle des machines, au milieu de terrain, tu as parlé du milieu de terrain, je pense que c'est quand même le truc central.
Bien sûr.
C'est-à-dire que on a un milieu de terrain, une philosophie globale chez Deschamps. Après, et notamment au milieu de terrain, avec beaucoup de joueurs défensifs. Et c'est vrai que dans ce secteur-là, où on a eu justement nos joueurs majeurs, évidemment Platini, Zidane, étaient dans ce rôle-là. Même s'ils étaient capables de marquer et Platini était un buteur, c'est différent de se dire que tu vas attendre.
Zidane,
quoi ?
Platini, aujourd'hui, en équipe de France, il jouerait devant.
Oui, mais tu vas attendre quoi aujourd'hui ? Tu vas attendre Mbappé. D'accord, mais Mbappé, et même quand il est bon, tu vas pas me dire que si au milieu de terrain t'as pas effectivement t'as Griezmann qui tient ce rôle-là.
Le leader technique c'est pas Mbappé en équipe de France.
Ben non c'est Griezmann. Pour ça que je parle du milieu de terrain
c'est
pour ça qu'à ce titre, donc en l'absence de Griezmann, on a quand même.
Mais quels sont les joueurs que vous voudriez voir qu'on voit pas?
Non c'est qu'on a un déficit.
C'est
le problème.
Il y en a pas.
C'est pour ça que c'est pas Deschamps.
Moi j'aimerais qu'on ait un meilleur latéral droit que Jonathan Clauss parce que je pense que c'est un très bon joueur mais que c'est pas le niveau international.
Et on en a pas. Effectivement, c'est pour ça. Non mais là, ce que souligne Thibaut est intéressant par rapport à ce qu'on a fait lundi soir dans l'after. C'est on dit partout, tu sais, on a une super équipe, on a un vivier incroyable, on a. Et quand tu regardes bien, tu dis, attendez, c'est pas tout à fait vrai. Oui, on a des joueurs incroyables qui jouent dans les plus grands clubs et qui ont le mental et qui ont des qualités incroyables. Je pense à Kamavinga, Tchouaméni, oui. Mais les joueurs créatifs, alors si tu prends les postes, t'as raison, latéral droit ou même piston droit, milieu terrain créatif, on n'a pas. Et même, je vais aller plus loin,
le 9
aussi. 9. Tu peux te dire que pour l'instant, enfin, en estimant que Giroud va évidemment arrêter en très peu de temps, on a peu. Donc, de dire, c'est ça l'alerte, moi, qui serait bien d'avoir par rapport à l'histoire qu'on a connue. Je reparlais de 2002 parce que j'ai vraiment bien vécu ces moments-là. Tu vois pas venir parfois le mur. Là, c'est bien quelque part parce que tu te dis, attendez, on a quand même des postes sur lesquels on est faible. On a quand même une attitude qui a pas été bonne là et il va falloir rectifier ça. On a une charnière centrale qui est pas encore remodelée. On peut pas dire
un gardien
comme ça,
qui est pas le gardien qu'il était il y a un an.
Donc, on peut pas dire comme ça. Oui, on va écraser tout le monde. Je me souviens que Daniel disait récemment.
Non, mais il s'agit pas de façon. Aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, qui peut dire on a écrasé tout le monde quand t'as une demi-finale de Coupe du Monde, t'as le Maroc et.
Ouais, mais récemment, on disait, je vois pas qui en gros peut bouleverser, enfin les Bleus, peut en gêner les Bleus, aller dans le dernier carré assez facilement. Ouais, moi, je pense que ça va être ça va être compliqué.
Ah bah oui.
Et l'euro est d'ailleurs.
Moi, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est à l'heure totale de se dire ça. Hein. Ouais. Qu'on sera dans le dernier carré en claquant des doigts. Il y a une. On voit bien. On a vu l'Allemagne. On sait que les Pays-Bas, ça va. On en parlera tout à l'heure.
Ouais, bah,
on sait que l'Espagne sera là. On sait que
l'Autriche dans notre groupe aussi.
Que l'Italie, tu peux jamais. Les Anglais sur le plan de la qualité de l'effectif, ouais. C'est meilleur que nous en ce moment.
Absolument.
Ce qui nous sauve avec les Anglais, c'est leur sélectionneur.
Moi, j'ai un peu peur de la jurisprudence euro. Qui est, alors même si c'est pas le même euro, qui est globalement plus homogène en termes de niveau, qui nous a occasionné des déceptions, même si c'était cruel en 2016, mais la déception évidemment aussi, l'élimination contre la Suisse. Je crains ça. C'est-à-dire que ce qu'on a supputé et supposé quand on a vu nos difficultés contre l'Angleterre et l'Argentine en Coupe du Monde, et même contre le Maroc, j'ai peur qu'on le reprenne à un moment ou à un autre là dans cet euro.
Moi, je me disais en regardant l'équipe de France de hand gagner l'euro alors qu'elle n'y arrivait pas depuis 10 ans, que ça pourrait être. Je pense qu'il y aura une forte source de motivation pour les Bleus de réussir à cet euro là. Voilà, et il y a une génération, Giroud, Griezmann, tout ça, c'est peut-être leur dernier jeu.
Dernière phrase. J'ai peur justement de ce crépuscule d'une part pour certains, et sachant que moi qui suis un fan de Giroud, me dire aujourd'hui que c'est peut-être le seul neuf sur lequel on peut compter, alors que lui-même sait qu'il a du mal à faire des matchs entiers. J'ai peur un peu de ça, et à l'inverse, je me dis que toi, tu parlais des handballeurs qui avaient su renverser le cours de l'histoire. Je me dis qu'on pourrait avoir des débats, notamment sur le fait d'avoir du mal à faire du jeu, et que les équipes récompensées en Ligue des Champions ou dans les grandes compétitions sont celles quand même qui créent un peu plus. Je pense à l'Angleterre, tu me parles notamment.
Inquiet ou pas pour l'équipe de France, 32-16 pour venir participer au débat dans un instant. Pierre, qui est là, qui nous a appelé, nous rejoint. C'est l'after en direct jusqu'à minuit avec Flo Gautreau et Stéphane Guy. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Il est 22h18, merci d'avoir choisi RMC. On est ensemble comme tous les soirs jusqu'à minuit avec Stéphane Guy, avec Flo Gautreau, direct également toujours sur YouTube. Merci à tous ceux qui sont là ce soir. À suivre, 22h30, les drôles de dames. On fait un focus sur nos adversaires en phase de poule de l'Euro, l'Autriche, la Pologne, les Pays-Bas. Beaucoup de choses intéressantes à entendre avec Johan Crochet, Paulo Breitner et un invité pour parler de la Pologne. Mais d'abord l'équipe de France, Colomoigny au programme dans quelques instants. Et on conclut notre débat inquiet ou pas après ces deux matchs amicaux pour l'équipe de France avec Pierre qui nous appelle au 32-16. Salut Pierre.
Bonsoir Thibaut, bonsoir l'after.
Salut Pierre.
Sois le bienvenu. Pierre, ben, on est ravis de t'accueillir. Est-ce que, comme Stéphane, tu n'es pas du tout, pas inquiet pour cette équipe de France ?
Je suis tout à fait d'accord avec Stéphane, je ne suis absolument pas inquiet. D'ailleurs, moi, si j'étais inquiet, c'est si jamais il y avait un adversaire en face de nous. Après la France, comme favori, il y a l'Angleterre, ils ont fait une défaite et un nul. Il y a l'Espagne, ils ont fait une défaite et un nul. Il y a le Portugal qui vient de prendre une défaite de 0 contre la Slovénie. Donc si nous on n'est pas favori, ben je vois pas qui est favori quoi.
Absolument.
Puisque toutes les équipes que je viens de citer, elles n'ont pas gagné un match. L'Allemagne, il y a 8 jours, on les voyait enterrés. Bon, bah, c'est pas parce qu'ils ont gagné 2 matchs de suite qu'on va les voir grands favoris non plus.
C'est hier, on s'est amusé avec.
Personne qui sort sur une vague exceptionnelle. Quoi.
On s'est amusé avec Nico Jamin et Daniel en fin d'émission. Ils déroulaient les groupes, ils disaient qui va être qualifié par groupe. Bon, bah, je veux dire, on était tous d'accord parce que on était dans une forme de logique par groupe. Mais il faut de toute façon se dire que ce qu'on a dit, c'est pas ce qui se réalisera, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on aura le Pays de Galles de 2016, on aura l'Islande de 2016, on aura la Suisse de 2020, je sais plus l'Euro.
Plus tard dans la compète, parce que sortie des groupes avec les trois premiers qui sortent du groupe, faudrait
c'est quasiment en huitième de finale déjà.
Donc il y a une petite différence avec la compète, le format quoi.
Prenons les quarts, les huit équipes qu'on imagine assez communément en quarts, elles seront pas là.
Oui.
Elles seront pas là. Sinon il y aurait plus de Paris d'ailleurs.
On espère que ce sera pas l'équipe de France.
Mais après, moi je pense que dans les matchs importants, les Français, on a quand même une équipe qui, enfin tous nos joueurs jouent dans les plus grands clubs européens. Je pense qu'ils sauront gérer les matchs clés bien mieux que d'autres pays. Après, ça peut arriver qu'on soit éliminé évidemment contre la Suisse. Il y a 4 ans, c'est bien tombé comme ça. Mais honnêtement, évidemment que les matchs en ce moment, ils sont pénibles, déjà pour nous à regarder. Ils sont pénibles pour les joueurs. Je trouve qu'il n'y a pas énormément d'enseignements à en tirer.
Mais tu vois pas, Pierre, comme beaucoup, enfin comme moi le premier, comme Flo, on en parlait, une baisse du niveau en fait de la qualité des joueurs français, que peut-être on se voile un peu la face sur le vrai niveau de nos joueurs.
Moi, je trouve que c'est faux parce que il n'y a pas un grand club européen aujourd'hui qui n'a pas un Français dans son effectif. Alors après, peut-être qu'on n'arrive pas à faire une.
Si, Manchester City, t'as pas de Français, par exemple, tu vois.
Ouais, si tu veux, t'as peut-être cette exception-là. Et encore, je pense qu'il serait pas, on n'est pas à l'abri, ce qu'ils en recrutent un ou deux, prochainement, je veux dire. Doku, par exemple, il a été révélé en France. C'est presque un joueur français, entre guillemets. Quoi, tu vois, alors, même si t'as cette exception-là, au Real Madrid, t'en as.
Mbappé, il est presque cabroulé, ce joueur qui joue avec l'équipe de France.
Oui, mais c'est ciblé quand même sur certains postes. On en parlait il y a un instant. Aucun grand club n'a de numéro 9 français. Bon, t'as Marcus Thuram à l'Inter, hein, mais qui est sorti de la Ligue des Champions après un mauvais match.
Pareil. Thuram, il faut quand même pas condamner Thuram parce que il a pas été bon. Hein, je vais pas le défendre. Et je l'avais pas non plus trouvé. Il y a des moments dans une carrière qui sont importants. Je pense que le but qu'il a à Madrid, qui peut qualifier l'Inter en quart de finale de la Ligue des Champions et qui rate, et c'est raté. Hein. C'est des moments clés dans une carrière d'un joueur comme lui. Mais on va pas non plus le mettre sous terre parce que effectivement il n'a pas été.
Mais un joueur qu'on n'a jamais vu briller avec l'équipe de France non plus quoi. Sur ses 17 sélections.
On l'a vu plutôt en entrant qu'en titulaire. Et effectivement il a raté ce match-là. Mais moi j'insiste et je l'ai fait dans l'after en demandant à Deschamps de pas fermer l'option 1-3-5-2 et de changement. Non, mais je sais que Deschamps, c'est très marrant, j'ai regardé pour travailler ce sujet-là, j'ai regardé depuis 2-3 ans ses déclarations et il va dans un sens ou dans l'autre en justifiant les deux de manière
il est capable de le sortir.
Alors qu'il avait dit, et il a tenu sa parole, mais il a déjà opté pour les deux options successivement, les justifiant très très bien. Et il a changé aussi, la Suisse est un exemple, il a changé à la mi-temps ou un peu avant, même dans la mi-temps je crois, parce que ça marchait pas. Bon, il a c'est le bon côté du pragmatisme chez Deschamps, c'est-à-dire que ce truc là il le sait, et il dit ça pour Thuram parce que je pense vraiment que Thuram, on rappelle l'histoire, mais c'est vrai qu'il a choisi l'Inter parce qu'il voulait jouer à deux devant. Il y avait pas qu'un choix financier, on va dire, il y a un choix sportif,
c'est là, pas un choix financier parce que sinon il serait à Paris.
Absolument, et c'est vrai qu'il a fait ce choix là et il faut l'entendre. Alors je dis pas qu'il faut faire jouer l'équipe de France pour Thuram, mais en tout cas si vous voulez un bon Thuram, vous l'aurez moins seul devant qu'avec un deuxième attaquant. Et je rappelais qu'à ce titre, quand Griezmann justement un peu en 10 derrière soit Mbappé Benzema, soit Mbappé Giroud, eh ben on avait eu des très bons matchs de l'équipe de France. Donc c'est pour ça, il y a tellement, j'ai tellement eu l'habitude, je pense aux latéraux, on commence une compète avec deux latéraux, on la termine avec deux autres, enfin tu vois, je sais pas exactement quelle équipe de France on va avoir, à commencer par la charnière centrale, on sait pas exactement avec quelle charnière centrale on va jouer, si ce n'est Konaté un temps d'avance aujourd'hui.
Oui. Je pense quand même que la paire Mécano-Konaté a un temps d'avance.
Alors, un temps d'avance, mais moi, comme ça, tu vois, je me serais pas surpris qu'on n'ait pas, et justement, cette charnière-là, tu vois, du début à la fin de l'Euro, et que ce soit, tu vois, Konaté, moi, je crois beaucoup à Saliba, par exemple, donc, voilà, pourquoi pas.
Deschamps, il croit moins que toi.
Donc,
ouais.
Tu verrais pas Pavard en défense centrale, du coup.
Ben, non, mais t'as raison, Pavard, pour moi, alors, pour Pavard, je l'ai désingué parce qu'il était pas à son poste, et effectivement, tu as raison, il est tout à fait légitime en défense centrale, et pas du tout en arrière-droit.
Merci Pierre, tu veux rajouter quelque chose ou pas?
Bah, la seule chose que je rajouterais, c'est que moi, à titre personnel, je mettrais Pavard arrière-droit, justement, parce que, étant donné qu'on a aucune solution, en partant du principe que Gusto c'est trop tard vu que les matchs amicaux sont terminés, moi je repartirais avec Pavard dans le sens où évidemment je le trouve pas bon, hein, je partage ton avis quand même Flo, mais c'est le moins pire quoi, parce que Koundé c'est catastrophique et Klaus
c'est petit avantage quoi. C'est que Koundé joue arrière droit avec le Barça aussi.
Ouais, mais il est nul quoi,
versus donc, Pavard qui joue
avec le Barça, il est pas bon quoi. Donc,
il a fait des bons matchs quand même. Hein. Il est pas tout le temps pas bon évidemment, sinon il jouerait pas.
Oui,
mais il
joue au Barça. Quand je dis qu'il est pas bon, je veux pas être méchant. C'est quand même un grand joueur. Il joue au Barça, mais honnêtement, il est quand même hyper décevant par rapport à ce qu'on attendait de lui son arrivée au Barça. Et je trouve que moi, j'ai plus de certitude avec un Pavard qui a jamais été décevant au Bayern ou à l'Inter, évidemment, même très bon en équipe de France dans les grandes compétitions. Il a rarement été décevant. Puisque finalement, la dernière Coupe du Monde, il a à peine joué. Moi, j'ai presque envie de lui faire confiance et de lui demander de faire l'effort de jouer arrière-droit. Parce que quand on n'a personne, ben, pour l'équipe, on se sacrifie. Et puis, il n'est pas indispensable dans l'axe, quoi. S'il serait encore indiscutable en défense centrale, il n'y aurait pas de débat. Mais oui, même Flo là, qui fait l'état des lieux, ben il part du principe que c'est Konaté ou Upamecano et le premier remplaçant c'est Saliba. Mmh. Alors Pavard, on en sait quoi? Mais quatrième joueur en défense centrale.
Non, moi je parle. Non, t'as raison. Hein, Pavard, à mon avis, a un temps d'avance dans l'esprit de Deschamps par rapport à Saliba d'ailleurs. Mais je te parlais de ma préférence à moi, comme disait Julien.
Ouais, Fier, mais moi je partage ton avis. En plus, c'est pour ça que après peut-être que Deschamps peut-être qu'il mettrait Pavard dans l'axe. Mais je suis même pas sûr en fait. J'avoue que le gros chantier pour moi, il est plus en défense.
Je crois que ça y est. Alors après d'avoir mis beaucoup arrière droit, il et Pavard ayant eu ce débat, ils ont eu un débat très très chaud quand même. Il s'est fait plus ou moins sortir, mais il a du caractère ce Pavard d'ailleurs parce que il s'est opposé entre guillemets à Deschamps. Il a joué et il a marqué deux buts. Bon, contre l'Écosse en plus, il a été très bon récemment. Oui. Donc non, dans l'esprit de Deschamps, je pense que s'il utilise Pavard, sauf blessure ou autre, il sera plutôt dans l'axe.
Pavard Konaté alors.
À bientôt Pierre, ouais. Merci d'avoir été là.
Salut les gars, merci.
Bonne soirée, très vite, bye bye. Salut. Tiens, je voudrais qu'on accueille Olivier, supporter de Chili, c'est ça? Salut Olivier.
Et bonjour à vous.
Bonjour. Bonne soirée. Bienvenue.
Parce que ma belle famille est chilienne, ma femme est chilienne, j'ai des amis qui sont chiliens et qui étaient au stade.
D'accord.
Et qui sont en cours de retour sur Paris. Moi j'ai vu le match, honnêtement, Gareca a un immense travail sur le Chili de reconstruction. C'est énorme. En moins d'un mois, il a réussi à remettre au pas militaire l'équipe. On se pose la question pourquoi Mbappé et Sanchez ont pas énormément joué. C'est pour les préserver, je pense, parce qu'en fait, il faut se rappeler d'une rencontre pour Alexis Sanchez quand il était la première période à l'Inter de Milan. Il va en Espagne contre les Colombiens. Rueda à l'époque le sélectionneur le convoque. Il se fait détruire les jambes par tous les Colombiens de l'équipe. Faut vraiment se rappeler. Il en a eu un mal de chien sans remettre déjà. Ça lui a causé des pépins physiques. Donc là, Gareca a dit. Pas question, je pense, qu'il risque quoi que ce soit, c'est quand même Lino Maravilla. Moi, c'est mon joueur préféré. Il y a un joueur à surveiller, c'est Dario Osorio.
Ah, il était très bon hier.
À Marseille, il le voulait, mais comme le problème, ils ont toujours un problème d'actionnariat à Marseille et qu'ils sont pas foutus, il faut virer Longoria, il est médiocre, il veut faire du Lidl, j'aime bien Lidl, mais on fait pas du discount dans le foot, comme on dit.
Et toi Olivier, juste pour revenir sur le match d'hier, donc maintenant t'es quoi, t'es 50% pour le Chili, 50% pour la France?
Il a dominé, il a joué, il a fait du jeu, il a construit. Il y a un de vos confrères sur l'équipe, pour pas le nommer, d'origine, il est franco-mauricien, je sais pas si vous voyez qui je parle. Et il a dit, mais ils sont inexistants les Français, ils sont passifs, ils sont attentistes. Qu'est-ce qu'ils foutent sur le terrain? Et encore, ils gagnent, c'est vrai, parce qu'en plus, il y a un problème de taille. Les Chiliens sont plus petits. Ils n'ont pas la même taille que les Français.
C'est vrai que sur le coup de pied arrêté, il y avait un coup à jouer.
Voilà, il y a eu des erreurs de défense de la part du Chili, c'est vrai. Il n'y avait pas le pitbull, Medel n'était pas là. Vous n'aviez pas Vidal est blessé au Chili, il a une lésion.
Et du coup, Olivier, toi, à ton avis, quand tu vois ça, est-ce que ça t'inquiète pour l'équipe de France?
Mais attendez, l'équipe de France, pour moi, je la regarde même plus, parce que Deschamps, pour moi, il est médiocre. Il n'est pas foutu de convoquer un joueur. Il y en a un, il a fêté son plus de 200e but au Tigré, au championnat de Mexico.
Et Olivier, il a un peu palmarès pour un médiocre, quand même.
Ah bah, attendez, quand on n'est pas foutu de... On se repose uniquement sur Mbappé, on n'est pas foutu de convoquer André-Pierre Gignac, il y a un problème. Gignac a fait une erreur, il a été au JO pour la sélection, mais il a aussi tenté, comme il a maintenant la mexicaine, il voulait rentrer avec Altri, comme on dit, il voulait y aller.
Mais je pense pas que le débat pour moi sur Deschamps soit sur le choix des joueurs et en l'occurrence
sur Gignac. Il y a un gros problème. Pourquoi André-Pierre Gignac qui a pas loin de l'âge de Ronaldo?
Ce qui me gêne Olivier, ce qui me gêne plus, c'est quand dans le match d'hier.
C'est sympa d'entendre de re-entendre parler de Gignac comme ça.
Ouais. D'accord, mais Olivier, tu le vois
déjà. Enfin, Gignac, ça fait combien 5 ans, 6 ans qu'il a pas joué en équipe de France?
Tu l'as vu jouer récemment, Olivier? Gignac, tu le vois beaucoup jouer?
Ben moi, quand je le vois jouer, surtout sur au Mexique, et à son âge, il y a pas beaucoup de joueurs qui ont la forme comme lui.
Hier, tu regardes ses matchs ou tu regardes les highlights?
Hier, t'avais N'Golo Kanté, aujourd'hui c'est Gignac, demain c'est qui?
Quand je peux, mais je regarde pas mal les résultats en espagnol qui sont expliqués sur les médias.
Moi, je crois que ce qui est plus gênant, Olivier, ce qui est plus gênant, plutôt que le choix des joueurs et plutôt que de repartir sur des choses individuelles, ce qui est plus gênant, y compris hier, c'est de voir que l'équipe de France accepte, c'est un bien grand mot, la domination chilienne, presque par préférence de la transition du contre. rencontre et dans l'espoir, et ça n'a pas été le cas hier, d'avoir un bon Mbappé qui va te sortir d'affaire. Moi, c'est plus ça qui me gêne quand tu dis qu'on s'ennuie. Moi, c'est pas, j'ai pas trop envie, et c'est pour ça que je tape moins sur les joueurs, parce que j'ai beaucoup tapé sur Pavard alors qu'il ne jouait pas à son poste et que c'est un défenseur central. J'ai pas envie de taper sur Thuram parce qu'il joue seul devant alors qu'il joue mieux à deux. J'ai pas envie, et voilà, et j'ai envie de voir une équipe de France qui joue différemment avant de te parler individuel. J'ai envie de parler de le c'est un sport collectif, c'est de la tactique avant de d'évoquer les choix de Deschamps. Donc c'est plutôt ça qui m'embête. Et hier, malgré ce qui s'était passé contre l'Allemagne, et malgré une équipe qui n'était pas mauvaise mais qui est plus faible que l'Allemagne, bah, l'équipe de France, t'as l'impression qu'elle accepte ça pour mieux, et c'était le cas d'ailleurs, il y a eu des transitions et des situations de compte, tu dis c'est pas possible que l'équipe de France avec son statut ne s'en remette qu'à ces transitions.
Je remercie Olivier d'avoir été là, à bientôt. Olivier,
j'ai une question, je peux
Très vite, mais pas sûr qu'on te réponde.
Vous pensez qu'Alexis Sanchez pourrait aller à Lazio puisque Tudor a été recruté?
Il manquera peut-être un peu d'argent au bout, ça c'est que mon avis.
Ouais, mais il s'ennuie à l'Inter de Milan, il est au banc.
Écoute, on posera la question à Yoann Crochet.
L'autre question, c'est est-ce que tu progresses quand tu passes de l'Inter à la Lazio, quoi.
Pour jouer, c'est mieux, hein, parce qu'il a besoin de jouer, Sanchez.
À bientôt, Olivier. Merci en tout cas. On posera la question à Yoann. Bye bye. Ciao. Tiens, je salue Nicolas dans le chat de la chaîne YouTube qui dit pourquoi pas Louisa. Eh oui, pourquoi pas. 22h31, c'est l'after avec Flo Gautreau.
Pagis, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu.
Ouais, on avait parlé cette semaine.
Il y avait Bafé Gomis tout à l'heure, là.
Ouais, bien sûr.
Bafé, il joue encore, hein. Il peut être candidat.
Absolument. Stéphane Guy et Flo Gautreau, l'after en direct jusqu'à minuit à la radio sur RMC, direct sur YouTube. @after-foot, la chaîne de l'after, avec vous tous au 32-16 dans un instant. Randal Kolo Muani n'est pas un neuf. Flo veut insister là-dessus. 32-16 pour participer au débat. Et les drôles de dames pour parler des adversaires des Bleus à l'Euro. Ça y est, on les connaît tous. Johan Crochet, Pro Le Breitner seront là pour nous parler de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Pologne. A tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Il est 22h35, Flo Gautreau et Stéphane Guy en direct jusqu'à minuit dans l'after. Merci d'être là sur RMC. Bon, vous êtes également là dans le chat de la chaîne YouTube.
C'est énorme.
Et ça y est.
Il y en a qui demandent où est Gilbert, il est parti sur LCP, me dit-on.
Pourquoi?
Il dit non. Je sais pas, les mecs.
Ah oui,
ça.
Non, il est en vacances, il revient dimanche. Pour Marseille PSG. Et donc vous êtes parti, comme notre auditeur Olivier juste avant, quel numéro 9 pour les Bleus? Il y a Hillel qui veut qu'on rappelle Guy Varche. T'as vu passer qui, Stéphane?
Dominique Rocheteau pourrait apporter quelque chose à l'équipe de France.
Piquionne, nous dit Nicolas, effectivement. Fred Piquionne. En plus, maintenant, Piquionne, il peut faire l'attaquant de pivot, l'attaquant de fixation.
Ouais, et Charbonnier, c'est assez marrant parce que je pense qu'il parle du Charbonnier de Ligue 2.
Gaëtan?
Ouais, Gaëtan.
Il est où d'ailleurs?
Il était à Saint-Etienne, il s'est blessé.
Il est parti à Auxerre après, il est où?
Non, il est à Saint-Etienne, il me semble. Je l'ai vu blessé, il est blessé.
Bon, le temps que tu cherches ça, vous annoncez que dans quelques minutes, les drôles de dames seront là, focus sur les adversaires des Bleus à l'Euro. On connaît le groupe, hein, après la qualif de la Pologne hier. On sera avec notre invité spécialiste du foot d'Europe de l'Est, plus Yoann Crochet et Paulo Breitner. Mais d'abord, on conclut sur l'équipe de France avec un avis.
Bastia
Gattaz.
Ah oui, il a changé, je me dis. Et il est à Bastia.
Avec Fred Antonetti.
Bientôt.
Qui arrive, directeur sportif. Avis tranché concernant Randal Kolo Muani, jingle.
Courte paille, d'ailleurs, il y a un gros dossier. Parce que figure-toi qu'il a failli disparaître. Moi, j'adore. Ouais. J'ai l'appli courte paille. C'est au-dessus de tout le reste sur autoroute. La petite salade d'accueil, les petites grillades. T'as les grillades, tu les vois.
Excuse-moi, je suis déjà le courte paille, je connais quand même.
D'ailleurs, depuis cet avis tranché.
Ça repart.
Tu as vu le papier sur Twitter, on m'a mis.
Je déconne.
L'enseigne qui avait quelques difficultés a été rachetée par une autre et s'est relancée. Donc quelqu'un a mis est-ce que l'after y est pour quelque chose? Je sais pas.
Certainement. Kolo Muani, donc, pour conclure sur les Bleus, oui. Flo.
En fait, c'est Kolo Muani et Deschamps, en fait. D'accord. Parce qu'en fait, Kolo Muani, c'est pas un intérêt incroyable, on va en parler évidemment, mais c'est aussi pour montrer, parce que je l'ai critiqué donc sur la façon dont il fait jouer les Bleus, on va pas refaire le débat sans cesse, mais la façon à l'inverse, il est capable de booster et de gérer et de manager ce genre de joueurs et de cas. Parce que Colomoigny a fait sans doute son meilleur match de la saison, de cette saison, si. Et moi, je dis effectivement depuis le début de la saison qu'il a atteint ses limites de compétences pour ce poste de numéro 9 en atteignant la Ligue des Champions, les matchs importants de Ligue des Champions et les matchs de l'équipe de France. Et je pense que ce genre de joueur, dans ce cas-là, se décale sur le côté, comme il l'a été d'ailleurs contre l'Argentine. C'est pas une honte. Et là, on m'a hurlé dessus en me disant « Mais tu n'y comprends rien, c'est un vrai neuf. Il a été formé en neuf. Il a joué en neuf à Nantes. Il a joué en neuf en Allemagne. » Je lui ai dit « Je sais qu'il est formé en neuf et qu'il a joué en neuf. Mais je pense maintenant que son avenir, en tout cas, sa compétence ne fait qu'il ne peut pas jouer en neuf au très haut niveau, qu'en revanche il peut rendre des services sur le côté, et que Deschamps a deux choses très positives. D'abord, compris cela, assumé cela et l'a mis effectivement sur le côté où il a été bon hier. Et deuxièmement, là on parle de management et de meneur d'homme, un Colomoigny qui est quand même globalement moins bien, qui se fait tailler, parce que faut reconnaître que si ces passages-là, pour des joueurs comme ça, c'est très très compliqué. Il se fait tailler de partout, on sait ce que sont les réseaux sociaux, on voit bien que dans son attitude, il encaisse. Deschamps lui a choisi, dans cette logique de groupe qu'il aime constituer, de le soutenir plus que ça. Il l'a tellement soutenu que le mec, il a voulu lui rendre ce que Deschamps a dit là dans la semaine à la presse. Ça, c'est du Deschamps. Ça, c'est du grand Deschamps. C'est-à-dire que quand on parlait de la charnière centrale, Daniel avait raison l'autre jour aussi en disant « Mais tu verras que la charnière qu'il aura choisie, il va te les remonter comme des pendules et tu vas voir deux molosses qui vont bouffer tout le monde à l'euro. » C'est du Deschamps. Et ce qu'il a fait Colomoigny, et je le dis sans ironie, hein, c'est très bon. C'est que je pense qu'il l'a mis Colomoigny au bon poste pour Colomoigny. Il l'a remonté psychologiquement. Il l'a défendu devant la presse. Voilà. Il est dans sa logique de groupe à la Jacquet. Va se constituer son groupe. Peut-être avec Colomoigny. Sans doute avec Colomoigny. Même si toi, quand t'es devant ton écran et tu regardes au PSG, tu dis, il va pas prendre Colomoigny mauvais comme il est. Ah oui. Il est pas bon parce que je pense qu'effectivement c'est pas un neuf. Mais c'est un débat qui scinde, hein. Parce que je peux te dire qu'il y a des gens qui te disent, non, c'est un neuf.
C'est sa force à Colomoigny. C'est pour ça que Deschamps l'aime bien, parce qu'il peut le prendre en neuf, il peut le mettre sur un côté. Il sait qu'il sera pas titulaire. Colomoigny, on a du mal à imaginer. On sait jamais, hein, ce qui peut se passer en foot, mais on a du mal à imaginer.
Non, mais il le met pas en neuf.
Colomoigny titulaire, mais il peut rentrer en neuf.
Oui, il pourrait.
Il peut rentrer à la place de Dembélé, ou Coman, s'il revient, etc. Donc, c'est la force de Colomoigny aussi.
Aussi.
Je te rejoins pas sur le fait que ce soit pas un neuf, et j'ai pas cet avis définitif. En fait, c'est un peu comme Thuram. C'est-à-dire que c'est pas un neuf de 4-3-3, comme l'équipe de France, seul devant.
Moi, je vois aussi
un. À Nantes ou Francfort, il était très entouré.
Moi, ma thèse là-dessus, c'est de dire qu'il y a certains joueurs qui, jusqu'à un certain niveau, footballistique, peuvent jouer à ce poste-là, et après tu passes un cap où certains vont sur les côtés. C'est pas une punition d'aller sur les côtés, hein. Je pense pas que tu sois le neuf du PSG, avec toi, mais c'est pas le neuf des Bleus.
Prends le parcours de Giroud. Je veux dire, s'il y a eu un neuf contesté et contestable.
Ah oui, non, mais par contre, c'était un neuf.
Moi, j'ai vu Giroud à Arsenal. On s'est dit pendant longtemps, il pourra jamais être le numéro 9 d'une équipe du niveau d'Arsenal. Il a 36 ans. Il est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Parce que Colomoigny, il a un truc quand même que peu d'attaquants français ont, c'est le jeu aérien. C'est pas inutile quand même, le jeu aérien.
Pour Giroud, c'est différent dans le sens où on a douté qu'il puisse être un très grand joueur, mais il avait son poste. Ça a toujours été un neuf, un attaquant d'axe.
Bien sûr.
Le débat n'était pas sur savoir côté ou axe.
Il a commencé les saisons, il terminait pas, Giroud, quand même, pendant longtemps dans les clubs anglais.
Randall Colomoigny qui sera probablement.
C'est intéressant de voir aussi, j'aime beaucoup ça, moi, sur l'aspect psychologique. C'est-à-dire que ce joueur, en gros, il vit un enfer depuis le début. En gros, tout le monde dit, et tous les gens qui le suivent peu d'ailleurs se disent, non mais c'est quoi, on n'a pas le neuf du PSG, c'est Ramos qui est passé devant lui, d'ailleurs, même dans la hiérarchie des neufs du PSG aujourd'hui. Et tu te dis, moi, j'ai pas du tout envie de fracasser Colomoigny. Je pense cela. Les gens te disent, non, c'est un neuf. Je te dis juste, je pense que sa rentrée contre l'Argentine est un symbole de ça, mais que ça peut être refait, et que Deschamps a cette qualité-là. Comme d'ailleurs Henry a aussi des qualités de sélectionneur, avec un Kalimuendo qui fait mieux jouer que parfois il ne peut jouer en club. C'est aussi parfois cette vision que tu as avec un peu de recul, puisque tu as un peu plus de temps, entre guillemets, de te dire, tiens, moi, Colomoigny, je vais pas le sacrifier, mais en plus je vais faire une décla, je vais aller le soutenir dans la presse dans la semaine. Le match qu'il a fait, moi, j'avoue, j'ai été très, très surpris. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu faire ces différences-là. Et bon,
bref, voir aussi contre qui les a faites. Hein. J'ai aucune idée. Ah ouais, moi, je connais pas le. Contrairement à notre auditeur tout à l'heure, l'équipe du Chili, je sais pas ce que vaut l'arrière gauche du Chili. Sur ce match-là, il est plutôt inquiétant.
Il aurait été en difficulté face à Gignac, l'arrière gauche du Chili.
Peut-être, ouais, je sais pas.
Ou Rocheteau.
Mais ça, non, en tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire. Il l'a très bien fait.
Il a fait un bon match, mais il a pas été non plus exceptionnel.
Non.
Aussi remettre.
C'est juste.
Quand dans un match, ton équipe en met trois, t'en marques un et t'en donnes un.
Une passe d'aise.
Une passe d'aise qui est une vraie passe d'aise. Passe d'aise d'Mbappé à Giroud, à Fofana. Là, c'est une vraie passe d'aise.
Il y a un tapis.
Il y a eu pas mal de déchets aussi. Ouais. Mais le dribble manqué, notamment par Colomoni hier.
Ah ça, il va en manquer de dribble. Hein. Parce que vu, alors là, pour revenir sur le plan technique, là, je veux, si on veut rouvrir les débats avec Colomoni, je suis
non,
pas...
on n'a pas le temps de le rouvrir. Tiens, juste vous dire
je suis pas un grand fan.
Ce qu'a dit Deschamps dans le vestiaire. C'est la Fédé qui met ce soir une vidéo sur son compte Twitter. Dans le vestiaire, après la victoire contre le Chili, Deschamps leur a dit, je cite, « Vous avez une fin de saison qui peut être très chargée. Faites attention. Vous avez des échéances et des objectifs à atteindre. Il y aura besoin fin mai ou début juin de toute la fraîcheur nécessaire physiquement et psychologiquement. Bravo à l'ensemble du groupe. Même si on n'a pas tout bien fait, mais au moins celui-là, on l'a gagné. » Voilà ce qu'a dit Didier Deschamps hier soir.
Ouais. C'est un message très classique de dernier rassemblement avant une grande compétition.
Oui, là, je le découvre ce soir.
Faites très attention, arrivez frais, mais avec les grandes échéances. Bon, bref, on va jouer, on va voir, on va essayer de pas se blesser.
À bientôt, quoi. Bravo, les gars. 22h44, dans un instant, les drôles de dames. Paulo Breitner, Johan Crochet, notre invité, spécialiste du foot polonais, Mathieu Pequenard, pour s'intéresser aux trois adversaires des Bleus, en moins de 3 mois, à l'Euro, l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. Vous êtes sur RMC, Stéphane Guy, Flo Gautreau, c'est l'after en direct jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Il est 22h47, Stéphane Guy, Flo Gautreau en direct jusqu'à minuit. Merci d'être là, d'avoir choisi RMC une fois de plus. À suivre à partir de 23h, la Ligue 1, le retour, enfin, dans 2 jours, Derby du Nord, et dans 4 jours, ce Marseille-Paris-Saint-Germain qu'on continue d'évoquer ce soir, 32-16.
Ah, c'est vrai que ça repart fort, hein. Derby du Nord, on rentrait comme ça.
Vendredi, dimanche, le Marseille-Paris-Saint-Germain, il y aura Lyon-Monaco samedi. Un gros week-end de Ligue 1. Ah oui, la Ligue 1, on la critique et tout, mais quand elle n'est pas là, elle nous manque, on s'en rend compte. 23h, est-ce que ce OM Paris Saint-Germain vous excite toujours? N'hésitez pas, le 32-16. Et puis, la question spécifique aux Marseillais, quelle équipe, quel 11? Venez faire votre 11. Je vous donnerai les dernières nouvelles et de l'infirmerie, elles ne sont pas bonnes. On pourrait presque faire un 11 de l'infirmerie côté Marseillais, qui serait meilleur que le 11 possible. Dimanche. En attendant, l'Euro, donc, et les adversaires de l'équipe de France, on les connaît tous depuis hier, et la qualification de la Pologne face au Pays de Galles. On sera dans quelques minutes avec un invité, Mathieu Pequenard, un spécialiste du foot de l'Europe de l'Est. Mais pour parler des Pays-Bas et de l'Autriche, accueillons nos drôles de dames, Paulo Breitner. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde.
Et Johan Crochet, salut Yo.
Salut Thibaut, bonsoir à toutes et à tous.
Bon, commençons par l'Autriche, premier adversaire de l'équipe de France. Ce sera le 17 juin. L'Autriche, Polo, qui a collé un 6-1 hier à la Turquie. 5e victoire de suite et sans quelques joueurs majeurs. Est-ce qu'à un moment donné, on commence à s'inquiéter un petit peu ou pas?
Pour la France? Non, moi je ne pense pas, parce qu'en fait le 6-1 hier, si tu t'arrêtes à la première mi-temps, c'est assez dramatique, le jeu de l'Autriche. C'est pas la première fois d'ailleurs que je suis assez déçu avec la prestation de l'Autriche, et j'ai le sentiment que même si la tendance est très positive, n'oublions pas qu'ils sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde 2022, qu'ils ont changé de sélectionneur, même si on reste sur ces 5 victoires, s'il y a des victoires contre l'Allemagne et l'Italie en match amicaux, ils ont pas réussi à rester en première division en Ligue des Nations, avec des prestations assez modestes, on va dire ça comme ça. Et puis la première mi-temps, il n'y arrive pas bonne. Et donc en fait, c'est surtout la faiblesse de la Turquie en seconde période qui fait qu'on a un score fleuve. Sur le papier, c'est très intéressant. D'ailleurs, les Autrichiens pensent qu'ils ont la plus belle génération depuis une quarantaine d'années. Donc la génération des Krankl, des Proaska, Bruno Petze, etc. Mais ça commence à dater. Et surtout, depuis 2021 et l'Euro, où ils avaient été éliminés par l'Italie en prolongation, j'ai pas le sentiment qu'on ait vraiment progressé. J'ai vraiment une belle équipe sur le papier, mais les prestations et le contenu, moi, ne me satisfont pas. Et je trouve, en plus, qu'il y a quelques absents. Vous parliez des absents pour Marseille, mais David Alaba, quand même, quoi. Mmh. Ça fait mal.
Bah oui.
Y a des postes qui sont pas au niveau d'une compétition européenne en attaque.
J'ai l'impression que tu pourrais parler de l'équipe de France, ça dirait la même chose, peut-être.
Ouais, mais j'aimerais bien avoir le débat sur Thuram, Colomouani en équipe d'Autriche, tu vois. Je n'ai pas, moi, ce genre de problème. Le gardien, ça devrait, c'est logiquement, ce pourrait être Schlager, le gardien de Salzbourg, qui a 28 ans, 14 sélections. C'est quand même pas terrible. Il y a vraiment, ce sont des postes clés. Le milieu de terrain est très fort. Donc ça, c'est toute la génération de Salzbourg et Leipzig, etc. La défense centrale est théoriquement très fort malgré le départ d'Alaba. Donc c'est Danzo et ce devrait être Linhart de Fribourg. Les latéraux, c'est pas terrible. Donc tu as, en fait, une abondance de biens au milieu de terrain et sur le banc, mais tu as des postes qui sont pas terribles. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait faire de l'Autriche une équipe dangereuse, d'autant plus que moi j'ai le souvenir de l'Euro 2016 où on avait une équipe, je cite la presse autrichienne, parfaite, un 4-3-3 qui était parfait pour l'Euro 2016 et on a vu ce que ça a donné. Donc si tu veux, je reste extrêmement dubitatif sur cette sélection. Je l'adore, encore une fois, sur le papier, mais le contenu ne me satisfait pas.
On est sur un schéma immuable, hein, 4-2-3-1, enfin il n'y aura pas de surprise. Alors, pour les Bleus.
Ouais, il y aura pas de surprise, ce sera plus un 4-5-1 qu'un 4-2-3-1 en fait, c'est vraiment le milieu de terrain où ça travaille beaucoup avec côté droit par exemple sera Leimer, le joueur de Stuttgart, à gauche sera Sabitzer, Baumgarten le milieu de terrain de Leipzig et derrière il y a le choix et la surprise de Ralf Rangnick, c'est du boss Rangnick parce que c'est la vraie bonne nouvelle, c'est que Rangnick a fait le ménage et a remis une sélection comme il fallait. Ce sera logiquement Zeewald qui ne joue pas à Leipzig d'ailleurs et à côté de lui il y aura le choix entre Schlager évidemment, Leipzig aussi, ou Grilich, le joueur d'Offenheim. Mais c'est un 4-5-1 parce que ça joue extrêmement petit, en fait. Il n'y a pas de véritable ailier. C'est des milieux de terrain, en fait, décalés sur les côtés. Donc, ce n'est pas un vrai 4-2-3-1, c'est plus 4-5-1.
Et toi, quand tu dis, Polo, que tu n'es pas inquiet pour la France, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que cette France qui, des fois, presque être dominée, donc quelque part, qui pourrait châtier d'ailleurs des équipes qui prennent le jeu à leur compte, ce sera le cas avec l'Autriche. L'Autriche est capable d'essayer de prendre le jeu.
Le problème, l'Autriche peut prendre le jeu, ça va être l'école du gegenpressing évidemment de Ralf Rangnick. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de déchets parce qu'une fois que tu fais un pressing très fort, faut-il encore avoir les joueurs techniques pour faire évoluer. Et encore une fois, comme il y a des postes, et notamment le poste de numéro 9 qui n'est pas excellent, on a le choix entre Arnautovic qui est blessé pour l'instant, Kalajdzic qui devait être celui après l'Euro 2021 qui devait prendre la place avec ses 2 mètres en pointe, et ben il est pas bon. Et aujourd'hui, on joue à Grigoric, l'attaquant de Fribourg. Qui est quand même le numéro 3 dans la hiérarchie. On a Adamou qui a complètement disparu de la circulation et qui ne joue pas à Fribourg non plus. Donc en fait, le problème, c'est que si l'équipe de France prend ce match comme un match facile, elle risque d'avoir une mauvaise surprise. Si l'équipe de France est très sérieuse, techniquement parlant, elle va être supérieure en fait à l'équipe d'Autriche. Et moi, c'est ça un peu qui me déçoit.
C'est quoi le calendrier des matchs de l'équipe de France ?
L'Autriche d'abord, les Pays-Bas et la Pologne pour finir. C'est ça
Exactement. L'Autriche le 17 juin. Et 4 jours plus tard, ce sera les Pays-Bas. De Johan Crochet, bien sûr, qui suit cette nation. Et à l'inverse, fin de série pour les Pays-Bas qui étaient sur 4 victoires de suite. Ils ont perdu contre l'Allemagne hier soir 2-1. Et avec cette impression finalement que dès que c'est un gros en face, ça le fait pas pour les Pays-Bas.
Oui, plus ou moins, parce que quand vous regardez la composition hier, le schéma a changé. Il y avait une moitié d'équipe A simplement. Il y avait pas mal d'absents. Déjà, il y a toujours beaucoup de blessés. Ça fait un an et demi qu'il y a énormément de blessés du côté des Pays-Bas. Donc, c'est difficile même pour Koeman de pouvoir se projeter et être certain que certains joueurs seront justement en forme pour l'Euro et qui seront en capacité de répondre positivement à une convocation en équipe nationale. Donc oui, mais sans doute, mais c'est un peu l'histoire des Pays-Bas. T'as un plafond de verre parfois sur certains matchs. Encore que hier, je sais pas ce qu'en a pensé Polo, mais l'Allemagne avait évidemment beaucoup le ballon. Ils ont très bien contre-pressé en première mi-temps et ça a mis en difficulté les Pays-Bas. J'ai bien aimé la réaction au retour des vestiaires avec un gros temps fort et plusieurs grosses occasions. Et à la fin, l'Allemagne est quand même un peu plus forte aussi sur le match là, mais bon, moi je trouve qu'il y a beaucoup de motifs positifs sur cette trêve internationale. Je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas vraiment marqué des points. Je pense notamment à Frimpong, qui n'a pas été bon contre l'Écosse. Et aujourd'hui, aux Pays-Bas, on parle beaucoup de ce cas-là spécifiquement. Est-ce qu'il sera en capacité d'être dans les joueurs appelés par Ronald Koeman? Il y en a d'autres, on a des interrogations. Quand je vois encore Daley Blind, c'est compliqué. Hein. Alors déjà, à gauche, c'est vraiment très très compliqué aujourd'hui avec l'exigence que demande ce poste-là, parce que hier il jouait dans une défense à 3 et donc Blind était piston gauche. Ça demande une telle exigence physique que Blind est juste pas capable de le faire. Donc peut-être qu'il jouera en tant que défenseur central, mais à gauche c'est plus possible. Et il y a des joueurs qui ont marqué des points comme Reinders contre l'Écosse qui a été bon. Depay qui a été très très bon aussi, je trouve, qui vraiment dans ce rôle-là sous Koeman, déjà dans son premier exercice, était déjà très très fort en faux numéro 9, qui décroche, qui participe au jeu, qui très juste techniquement. Donc il y a des motifs de satisfaction. Il y a quelques interrogations quand même sur la liste de joueurs, notamment dues aux blessures, parce qu'un joueur comme Botman par exemple, qui aurait pu être dans la liste, on sait que avec sa rupture des ligaments croisés, c'est terminé. Il y a des incertitudes sur le gardien aussi. C'est un vrai débat aux Pays-Bas. Et d'ailleurs, hier, je ne sais pas si Polo a bien aimé son match, mais Verbruggen a fait un bon match contre les Allemands, le gardien de Brighton. Comme Bailo est toujours blessé avec Feyenoord, il est sans arrêt blessé, que les autres n'avancent plus, ce sera peut-être lui le titulaire à l'Euro.
Sur les schémas tactiques, il hésite ou il prépare les deux, de défense à 3, défense à 4?
Je pense qu'il prépare vraiment les deux. En fait, le problème des Pays-Bas, c'est qu'il y a une telle abondance au poste de défenseur central que parfois, ne pas jouer à 3, c'est limite gâché, parce que quand vous prenez Van Dijk, De Ligt, Ake, Stéphane De Vrij, Jurjen Timber, Mickey Van de Ven à Tottenham, Sven Botman à Newcastle, on parle souvent des défenseurs centraux français, mais il faut aussi regarder ce que fait les Pays-Bas. Et il y a 7-8 joueurs de très haut niveau pour un seul poste, pour deux postes si tu joues à 4 ou trois postes si tu joues à 3. Donc il y a aussi des questions. Hein. Moi, j'étais un peu étonné, par exemple, qu'il joue avec une défense à 4 avec Frimpong contre l'Écosse, et que dans un schéma en 3-4-1-2 contre l'Allemagne, qui est pourtant un schéma préférentiel pour Frimpong, il ne le fasse pas jouer. Donc je pense sincèrement qu'il prépare les deux. Il a des joueurs qui sont capables aussi de jouer à soit en défenseur central, soit en défenseur de côté.
Mais lui, il préfère plutôt jouer à 3.
Non, depuis un petit moment, il préférerait jouer à 4. Après, la constitution de son équipe, le fait aussi qu'il n'est pas toujours un numéro 9 qui soit très fiable, ça pose des questions. Et par exemple, une attaque à 2 avec un Depay qui n'est pas vraiment un 9 et un joueur à côté qui pourrait être Zirkzee qui est un 9 mais qui est un joueur qui décroche beaucoup aussi, ou un Broby qui est vraiment un 9, ou un ailier qui est recentré comme Malen, comme Cody Gakpo qui ne jouait pas hier non plus. C'est un peu dicté aussi par les formes du moment, sans doute aussi par les adversaires. Mais moi, je trouve ça très bien qu'il prépare deux systèmes de jeu dans lesquels beaucoup de joueurs peuvent s'insérer.
Il fait ce que Flo demande à Didier Deschamps, quoi. Beaucoup de défenseurs centraux,
beaucoup de coachs quand même. Et effectivement, il y a deux choses. C'est vrai qu'on peut le prendre dans les deux sens. Soit on le prend par rapport à ses défenseurs. Alors soit on le prend par rapport à l'équipe adverse, déjà, pour être prêt dans plusieurs cas, il y a ça quand même.
Ouais, mais non, nous on impose notre jeu, nous.
Non, justement non. Et c'est pour ça que c'est très bien, assumons ça. Si tu imposes pas ton jeu, tu regardes l'équipe adverse. C'est comme ça que Deschamps est venu au 3-5-2 d'ailleurs.
Et pour aller dans ce sens-là, Flo, l'Italie a travaillé un système à 3 aussi avec deux milieux offensifs derrière un attaquant, parce qu'il y a aussi un problème de 9.
Voilà.
C'est un schéma qui répond à des absences au poste de 9.
C'est ça. Et moi, là, la réflexion que je m'étais faite, effectivement, c'était par rapport au poste d'attaquant. C'est pas débile de partir de l'attaque pour te dire quand en plus tu as Pléthore et Deschamps est exactement dans le même cas, même si c'est pas les mêmes profils que les Pays-Bas, et lui-même sélectionne des listes avec plein de défenseurs centraux. Donc c'est paradoxal parce que lui-même est revenu à 4, là où il a le plus de défenseurs centraux de métier.
Juste rapidement, Yo, on ira pourquoi l'Euro Pays-Bas, l'ambition c'est de le gagner?
T'as déjà croisé des Pays-Bas humbles, t'as croisé déjà des Néerlandais humbles dans la rue, non pas trop.
C'est vrai, quand je vais au camping, en général, ils sont pas comme ça.
Et surtout, au tennis ballon.
Tu vas avec de l'ambition parce que t'es les Pays-Bas et que t'aimes bien représenter ton pays et être beau et bon. Mais après, tu te heurtes toujours à des limites aussi face à des très très grandes nations. Donc,
ils savent qu'ils perdent beaucoup en finale quand même.
Oui, voilà, notamment. T'y vas pour sortir du groupe. Et t'y vas pour ensuite, selon comment se feront les croisements avec les autres groupes et qui se qualifiera, etc. T'y vas pour être globalement quart de finaliste. C'est un peu toujours l'objectif de base de toutes les sélections néerlandaises quand elles participent aux grandes compétitions.
Merci Yoann, merci Polo. Bonne soirée,
merci
les gars.
À vous.
À très vite dans l'After pour reparler de 7 euros et au plus tard lundi, 20h, 22h, Génération After spécial Drôle de Dame. Dans un instant, invité de l'After. Un homme qui connaît très bien le dernier adversaire de notre poule, la Pologne, qui s'est qualifié hier face au Pays de Galles. Il s'appelle Mathieu Pecknard. Il travaille notamment pour le site Footballski. Connaît très bien cette sélection polonaise. Il sera là dans un instant. Et puis la Ligue 1 de retour également. Marseille, Paris, Saint-Germain, J-4. Êtes-vous toujours excité par ce match? De quoi?
Pas comme le biathlon, le football ski.
Non.
c'est un bon concept, ouais, ça, non?
Je sais pas, pas sûr.
Bah, tu fais du ski, puis tu mets une cage, ouais, un gardien de but.
Mais déjà, on a du mal à marcher avec les choses.
Ouais, c'est vrai. Que
alors, jouer au foot.
Mettre un péno.
Ouais, compliqué. Après, ceci dit, quand tu regardes certains matchs, tu te dis, t'as l'impression qu'il y a certains joueurs qui jouent avec des chaussures de ski. Et on les embrasse. 23h, c'est l'after. Stéphane Guy, Flo Gautreau, on est en direct jusqu'à minuit. À tout de suite sur RMC.